Bonjour. Bon, comme chaque fois, je suis un peu ému en commençant. Alors, le principe. Ok. Merci. Donc, en fait, on est en début d'année, puis j'ai pensé que ce passage nous est comme offert pour nous réorienter vers ce qui est vraiment important. Et que parfois, au fil des jours, nous oublions un peu. C'est pour cela que j'ai pensé à un texte bien connu dans l'Évangile selon Luc, le texte dit du bon samaritain, avec cette parole centrale qui est répétée deux fois, « Prends soin de lui, take care of him ». Et j'en profite pour vous parler très rapidement, avant d'aborder le texte, du care. Je ne sais pas qui connaît la notion du care. Vous pouvez lever le doigt. Donc vous êtes plusieurs. Alors, ce que je dis n'est peut-être pas très... c'est que très partiel. Voilà. Donc, je vais passer au... Essayer de voir si ça marche. Oula, oui, c'est pas écrit très gros. Qu'est-ce que c'est que le care? Ça vient d'un mot allemand, du haut allemand, qui voulait dire pleurer, se lamenter. Et en fait, les deux bouts de notre vie sont marqués par la vulnérabilité. Quand je dis, c'est-à-dire quand on est tout petit, et après, quand on arrive à l'âge avancé. Et c'est pour ça, les premiers jours de notre vie, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais c'est bien de le dire, on ne pourrait pas vivre si nous n'avions pas les soins de notre, en particulier de notre maman. Nous ne serions pas là ici, chacun de nous, si quand nous étions tout petits, notre maman n'avait pas pris soin de nous, nos parents, de façon plus générale. Et puis, cette vulnérabilité, on la retrouve aussi dans les personnes très âgées, mais ça peut nous arriver à chacun. Au cours de notre vie, nous pouvons passer des moments où nous sommes plus fragiles, où nous avons besoin de soins. Et j'ai pensé que, voilà, en ce début d'année, c'était un sujet à réfléchir. Le care, c'est la notion telle que nous la connaissons, qui se répand de plus en plus aujourd'hui en France. Au départ, c'est aux États-Unis. Mais je lis la deuxième phrase d'abord avant. Le care, c'est prendre en compte notre vulnérabilité. Si notre vulnérabilité foncière fait de nous des objets du soin, elle nous invite aussi à devenir les sujets, c'est-à-dire à donner nous-mêmes les soins et à porter notre attention sur cette souffrance autre que la souffrance de l'autre. Souffrance dont toujours quelque chose m'échappe, et qui m'amène donc au respect, mais qui me fait aussi découvrir la vie, dans un certain aspect. Alors voilà, j'avais un peu anticipé, donc le care, au niveau de l'éthique du care, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle est née aux États-Unis, dans les années 1980, je pense, dans les sciences sociales et humaines, avec des noms comme Carol Gilligan, peut-être pour ceux qui connaissent. Et vivre le care, ça je cite une pensée d'Henri Nouwen. Henri Nouwen, c'est un dominicain, je crois, qui a écrit des livres intéressants. Et il a écrit, c'est l'attitude la plus humaine de toutes. C'est un geste de courageux que nous avons en commun, chacun, un besoin l'un de l'autre. Et c'est la grâce d'une compassion qui nous attache à des frères et sœurs qui, comme nous, partagent le voyage tout à fait merveilleux et douloureux de la vie. Voilà, c'était juste une petite introduction. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je pourrais donner un peu plus de références. Et on va passer à la lecture, mais je dirais avant que... il me semble que la particularité du care chrétien, c'est-à-dire en tant que chrétien, c'est qu'il prend en compte la dimension spirituelle de notre vie, de notre humanité, notre relation à Dieu, notre foi, nos doutes, nos découragements, tout cet aspect qui est propre à la foi. Et nous avons besoin de créer des espaces où nous pouvons échanger, partager ce qui vraiment nous pèse, vraiment les questions que nous nous posons. Et dans les églises, de façon générale, hein, sans faire une généralité, mais il faut vraiment créer des espaces pour qu'on puisse partager ce qui est vraiment sur notre cœur et qu'on n'ose peut-être pas dire. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin sur l'éthique du cœur et je vais lire maintenant cette parabole de Luc 10, ce texte de Luc 10. Alors, je vais lire dans une traduction assez littérale. Peut-être ça vous surprendra un peu, mais j'ai fait un peu exprès pour un peu décaler ce qu'on est habitué à entendre. Donc, c'est une traduction que je vais vous lire. Je ne sais même pas d'où elle vient, mais elle est littérale. Et voici un certain, c'est Luc 10, verset 25, pour ceux qui veulent suivre. Et voici un certain docteur de la loi se leva, le mettant à l'épreuve, c'est-à-dire mettant à l'épreuve Jésus, en disant, « Rabbi, ayant fait quoi hériterai-je d'une vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, que se trouve-t-il écrit ? Comment lis-tu ?» Or, ayant répondu, il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur entier et en ton âme entière, en ta force entière et en ta pensée entière et ton prochain comme toi-même. » Or, il lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais sans cesse ceci et tu vivras. » Celui-ci, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Ayant repris la parole, Jésus dit, « Un certain homme descendait de Jérusalem vers Jéricho, et il tomba sur des brigands qui, l'ayant déshabillé, lui ayant imposé des coups, s'éloignèrent, le laissant à demi-mort. » Or, par hasard, un certain prêtre descendait dans ce chemin-là et, l'ayant vu, passa de l'autre côté. Semblablement, un lévite aussi, étant venu par le lieu et ayant vu, passa de l'autre côté. Or, un certain samaritain, cheminant, vint à lui et, ayant vu, fut pris aux entrailles. Et s'étant approché, il banda ses blessures, versant de l'huile et du vin. Et l'ayant fait monter sur sa propre monture, il le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. On retrouve le soin. Et le lendemain, ayant tiré 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui, et ce qu'éventuellement tu auras dépensé en plus, moi, quand je reviens, je te le rendrai. » Qui de ces trois te semble être devenu le prochain de celui qui était tombé en plein sur les brigands ? Celui-ci dit, « Celui qui a fait preuve de pitié avec lui. » Jésus lui dit, « Fais route sans cesse, et toi, fais de même sans cesse. » Le « sans cesse », c'est pour traduire le présent en grec, il y a 2 temps différents. Le présent, c'est la notion de continuité. Alors, je vais maintenant rebalayer le texte avec vous en donnant juste quelques pensées. Je regarde l'heure. Donc... Donc, il y a plusieurs lectures possibles de cette histoire. une des lectures les plus anciennes qui était au début de l'histoire de l'Église, c'était d'en faire une lecture qu'on dit christologique, c'est-à-dire que ce texte nous parle de Jésus. Je reviendrai à la fin de ma parole sur cet aspect des choses, mais là, dans un premier temps, je ne regarderai pas cet aspect. En quoi ce texte nous parle du Christ? Donc, je relis donc comment ça commence. Et voici, juste avant, si vous vous rappelez, Jésus a dit « Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et puis là, il y a quelqu'un, un sage, un intelligent qui se lève, un docteur de la loi, donc quelqu'un qui était, on dirait aujourd'hui, un exégète, quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, les textes anciens, se lève, le mettant à l'épreuve en disant. Donc dans le grec, c'est le mettant à l'épreuve. On souvent traduit pour le mettre à l'épreuve, mais ce n'est pas exactement le sens. Le mettant à l'épreuve, c'est un peu comme on faisait au Moyen-Âge une disputation, c'est-à-dire qu'il voulait le confronter. Mais c'est quelque chose d'assez fort. Hein. Et il lui met la pression, si on veut dire, comme s'il cherchait à tester Jésus. Mais pourtant, sa question du docteur, elle me semble traduire un sérieux de sa part, ce désir profond de la vie éternelle. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il... Mais c'est tel que le texte nous le montre. Ayant fait quoi, hériterai-je? Quand on hérite quelque chose, c'est en général pas quelque chose qu'on a mérité. On hérite. Là, c'est pas un salaire, si un héritage. Et là, il le rapproche. Mais Jésus lui répond, dans la loi, que se trouve-t-il écrit? Comment lis-tu? Qu'est-ce qui nous surprend dans la réponse de Jésus? Qu'est-ce qui est surprenant? Pardon? Le comment, mais déjà, c'est qu'il répond par deux questions. C'est intéressant, enfin, c'est quelque chose qu'on a peut-être... Il répond en lui posant deux questions, on va revenir sur ces deux questions. Il le rend acteur... Jésus l'associe à la réponse, même plus, et il va faire en sorte qu'il va lui-même trouver la réponse, le docteur de la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que, aussi, je trouve, c'est que Jésus se place en vis-à-vis. Il ne se met pas au-dessus de lui. Lui s'est adressé à Jésus comme un rabbi, comme un maître. Et Jésus se place un peu en vis-à-vis, mais pédagogiquement, je pense que c'est assez connu, c'est assez utilisé de poser des questions voilà. Et donc, les deux questions sont différentes. La première porte sur ce qui est écrit, ce qui est vrai pour tous, qui est universel, qu'est-ce qui est écrit. Alors que la seconde, elle porte sur le comment. Non pas d'ailleurs comment tu mets en pratique, mais comment lis-tu? Comment tu entends ce qui est dit? Qu'est-ce que ça implique pour toi? On peut aussi l'entendre, de quelle place tu lis la loi? Vous savez, dans Ésaïe, il y a un verset, je crois que c'est Ésaïe 50, qui nous dit que le Seigneur, en parlant du serviteur de l'Éternel, qui est une prophétie du Christ, il réveille l'oreille chaque matin pour que j'écoute comme ceux que l'on enseigne. Et quand nous approchons la parole, il faut être, je le dis d'abord pour moi, être dans cette position, celui qui écoute, celui qui veut se laisser enseigner. Pour ceux d'entre nous qui ont fait un peu des partages bibliques, la lectio, la première question dans la loi que se trouve-t-il écrit, c'est qu'est-ce que dit le texte et comment en es-tu, comment j'entends le texte, qu'est-ce qu'il me dit? Ça rejoint, c'est un peu ce qu'on fait quand on fait nos lectures partagées. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Alors, je voudrais faire une petite digression. C'est dans la loi que se trouve-t-il écrit. En français, dans notre imaginaire, quand on entend le mot loi, c'est un peu négatif. C'est, enfin, ça fait un peu le code civil, le code pénal. Ça fait un ensemble d'ordonnances, de décrets, quelque chose de figé. Et parfois, on a peut-être un rapport au texte des Écritures qui est un peu de cet ordre-là. Mais dans la Bible, pour l'homme de la Bible, la loi, ce n'est pas du tout ça. La loi, c'est la parole de Dieu. Ta loi m'a fait vivre. Ta parole m'a fait vivre dans le psaume 119. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui dit dans l'épître aux Thessaloniciens, cette parole qui opère en vous qui croyez. Je voudrais nous inviter chacun à la confiance. Quand nous lisons un texte biblique, ayant confiance, il opère en nous. Il opère en nous. Même si on a l'impression que peut-être plus tard, tout à coup, un verset va revenir et va nous toucher, va nous consoler, va nous éclairer. Je dirais juste une autre petite chose, ce que j'ai oublié de dire par rapport à comment lis-tu. On peut le rapprocher aussi, vous savez, les quatre terrains de la parabole. C'est la même graine, la même parole qui tombe, mais il y a quatre façons différentes de l'accueillir. Alors, on va passer maintenant à la réponse du... Si j'arrive. Voilà. Une réponse juste, suivie d'une seconde question. Donc, je relis le texte. Ayant répondu, il lui dit... Donc, on voit qu'il répond. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, en toute ton âme entière, en ta force entière, en ta pensée entière... et ton prochain comme toi-même. Or, il lui dit, tu as répondu correctement, fais sans cesse ceci et tu vivras. Celui-ci, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain. Donc, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, déjà, la réponse, elle est bien connue pour nous, on la connaît bien, mais chapeau quand même, hein. C'est-à-dire de résumer toute la Torah en rapprochant ces deux versets, l'un pris dans le Lévitique et l'autre dans le Deutéronome, mais comme vous voyez, il commence par mettre d'abord le dernier verset de Deutéronome, il met d'abord Dieu en premier, tu aimeras ton Dieu, et après ton prochain. Alors, nous, on est habitués, ça nous paraît banal, mais Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Une autre remarque, c'est qu'il répond à la première question de Jésus, c'est-à-dire, qu'est-il écrit ? Mais il ne répond pas à la question, comment lis-tu ? Et c'est la suite de l'histoire qui va l'amener à discerner comment on doit lire la parole. Et alors, en ton âme, en ta force entière, c'est un tout petit détail, j'espère que je ne suis pas trop long, c'est que c'est... Dans le grec, il y a un peu différent. De tout ton cœur... de ton cœur entier, c'est l'origine, et après c'est dans tous les aspects de ta personne, ton âme, etc. Alors, on voit déjà qu'il a progressé simplement par la question de Jésus, parce qu'il est passé du faire à l'amour. Donc il est passé de... Il y a quelque chose qui a progressé, il va plus en profond, et Jésus va lui répondre... À sa deuxième question, qui est mon prochain ? Il va lui répondre par un récit qui est bien connu. C'est le récit du Samaritain. Si Jésus lui avait dit, est-ce qu'un Samaritain est ton prochain ? Il aurait probablement répondu non. Parce qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une barrière très, très, très forte entre les Samaritains et les Juifs. Et ce docteur de la loi, c'était un Juif, très probablement, donc il aurait... probablement répondu non. Et Jésus va l'amener, par ce récit, à décaler ça, à changer. Je vais passer maintenant au transparent d'après. Donc, c'est l'histoire proprement dite. Alors là, j'avais mis une copie d'un manuscrit du XIIe siècle. Je pourrais envoyer à ceux où je le ferai passer, ceux qui sont intéressés, qui a mimé, a fait un tableau c'est dommage parce que je l'ai trop petit, on ne voit pas bien, mais des différents moments de l'histoire du Samaritain. Par exemple, les quatre voleurs qu'on voit ici, ils ont un visage tout à fait normal. Donc je lis le texte, et ayant repris la parole, Jésus dit, un certain homme descendait de Jérusalem vers Jéricho, et il tomba sur des brigands qui, l'ayant déshabillé, couvert de coups, s'éloignèrent, l'ayant laissé à demi-mort. Le malheur de cet homme est présenté ici en conséquence d'une agression humaine. Et c'est un malheur comme redoublé. Ce n'est pas suite à un accident météorologique ou c'est le fruit de la méchanceté. Et je crois que dans la société civile et dans l'Église au sens large, dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui ont pu tomber entre les mains des voleurs. Et alors, ce qui est touchant, c'est que Jésus a pris cet exemple. Et du coup, le prend soin de lui, ça forme un pendant lumineux à cette agression morbide. Il y a dans la conscience de l'homme qui a été blessé, agressé, elle va être dans son âme comme soignée, guérie par la présence du Samaritain, d'un autre homme qui va venir à son secours. Ensuite, les trois voyageurs. Donc, par hasard, un certain prêtre descendait dans ce chemin-là et l'ayant vu, passa de l'autre côté. Semblablement, un lévite aussi étant venu par le lieu et ayant vu, passa de l'autre côté. Or, un certain samaritain cheminant vint à lui et ayant vu, passa de l'autre côté, non, fut ému de compassion, c'est-à-dire littéralement pris aux entrailles, comme s'il avait reçu un coup quand il a vu cet homme. Tous les trois passent ce chemin, tous les trois voient la chose, la situation. Petite différence, le premier c'est l'ayant vu, et les autres c'est ayant vu. Enfin, tous les trois voient et leur réaction est pourtant très différente. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le sacrificateur qui était occupé des choses de Dieu ou le lévite qui était aussi au service. Parce qu'il y a un verset dans Ésaïe 58 qui dit, verset 7, « Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de lui. » Eh bien non, ils voient mais ils passent. Pourquoi? Ils n'allaient pas au temple, puisque le temple était à Jérusalem et ils descendaient dans ce chemin-là, donc entre Jérusalem est haut et Jéricho est en bas. Ils venaient peut-être du temple et pourtant, donc il n'y avait pas le risque de se souiller. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Est-ce que leur fonction aurait-elle étouffé leur cœur? Est-ce que notre, entre guillemets, notre religion étoufferait notre cœur? Je crois que j'ai mis derrière un commentaire que j'aimerais vous lire de Martin Luther King. C'est la dernière prédication qu'il a faite, c'était la veille de son assassinat. Et c'est en relation avec son combat par rapport je ne sais plus le terme, ce qui se passe aux États-Unis. La ségrégation, oui. Il est donc possible que le prêtre et le lévite ont eu peur d'être battus s'ils s'arrêtaient, car les voleurs ne pouvaient-ils pas être encore là? Ou peut-être que l'homme à terre n'était qu'un imposteur faisant semblant d'être blessé pour attirer les voyageurs de passage à ses côtés et leur faire en faire une proie facile. Je peux donc imaginer que la première question que le prêtre et le lévite se sont posées, c'était « Si je l'arrête, si je m'arrête pour aider cet homme, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Puis le bon samaritain est arrivé et par la nature même de sa préoccupation, il a inversé la question « Si je ne m'arrête pas pour aider cet homme, que lui arrivera-t-il » Alors après, on passe au Samaritain. S'étant approché, il banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et l'ayant fait monter sur sa propre monture, il le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, ayant tiré 2 deniers, il les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce qu'éventuellement tu auras dépensé en plus, moi, quand je reviens, je te le rendrai. » Donc il y a 9 actions, du Samaritain. Elles s'enchaînent de façon naturelle à partir de sa compassion. Elle part de ce qu'il a vécu intérieurement. Ça ne reste pas juste une émotion, mais ça se traduit dans un agir, dans des actes. S'étant approché, ça évoque cette proximité, un rapprochement intérieur, c'est l'expression de la bonté. Et après, j'ai mis d'ailleurs une citation d'un proverbe tibétain, une fois n'est pas coutume. Hein. C'est « Un jour, en marchant dans la montagne, je vis une bête, et en m'approchant, j'ai vu que c'était un homme, et en arrivant près de lui, j'ai vu que c'était mon frère. » Passez au précis. J'ai pas le temps maintenant, mais on pourrait, de façon assez intéressante, rapprocher les actions du Samaritain justement du Caire dont j'ai parlé au début de ces moments. Mais ça serait trop long, ça serait un peu philosophique, mais c'est très intéressant parce que la première étape du Caire, c'est l'attention. Et l'attention, c'est cette capacité involontaire qu'est la sensibilité. C'est ce qu'écrit Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, qui est aussi chrétien. Il s'agit au niveau de l'attention d'introduire une dimension de réciprocité dans le care. C'est en reconnaissant que j'ai moi-même besoin de soins, besoin qu'on prenne soin de moi, que je deviendrai davantage capable de mettre le care, c'est-à-dire au centre de ma vie. C'est en reconnaissant que moi-même j'ai besoin des autres que je pourrais aussi me tourner vers les autres. Et après, on pourrait prendre la responsabilité, etc. Alors, l'hôtellerie, je viens un tout petit peu sur l'hôtellerie, c'est que l'hôtellerie, ça a souvent été compris comme une figure de l'Église. C'est que l'Église, c'est, comme disait quelqu'un, devrait être comme un hôpital de campagne. Et avoir cette capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, de ceux qui viennent dans nos églises. Il faut commencer par là. Après, encore pour 5 minutes, donc, le dernier échange. Qui de ces trois, lui demande Jésus, te semble être devenu prochain de celui tombé en plein sur les brigands? Celui-ci dit, celui qui a fait preuve de pitié avec lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Le docteur de la loi, comme je dis, il avait répondu à la première question, qu'est-il écrit? Mais pas comment est-il écrit? Comment lis-tu, pardon? Et par sa nouvelle question, Jésus l'invite à répondre à cette seconde question, à mettre en pratique ce qu'il a compris par un exercice de discernement. Lequel de ces trois, qui de ces trois, te semble être le prochain? Alors, la réponse paraît évidente. C'est celui qui a pris soin, qui l'a aimé, Mais il fallait qu'il le dise. Oui, ce Samaritain méprisé, c'est lui qui a vraiment respecté la loi, qui l'a pratiquée. On a aussi, je noterai aussi la différence entre la question du départ, qui est mon prochain, et la question de Jésus, qui est devenu prochain. C'est quelque chose de dynamique et non pas statique. C'est pas j'ai une série, ça c'est mon prochain, lui, eux ils ne sont pas mon prochain. C'est dynamique, c'est situationnel. Et la deuxième observation aussi qu'on peut dire, c'est qu'il l'invite à se décentrer. C'est pas moi là, et puis lui il est mon prochain, etc. Mais c'est l'autre qui est au centre, et moi je deviens son prochain. Donc mon prochain, c'est qui? C'est celui qui m'a aidé, c'est celui qui m'a aimé, c'est celui qui a pris soin de moi. Et peut-être on peut dire aussi que pour pouvoir devenir le prochain de celui qui est blessé, il faut d'abord avoir été guéri, avoir goûté la miséricorde divine. L'apôtre Paul dit souvent, miséricorde m'a été faite afin que, etc. Je pense que c'est vrai dans nos vies. Et c'est en ce sens, c'est encourageant, même si nous avons connu des moments de chute, si nous avons des moments de désert, c'est pour pouvoir après être en aide à ceux qui peuvent traverser ces moments. Je finirai par le Samaritain figure de Christ. Comme je l'ai dit, les premiers commentateurs de l'Église lisaient ce récit comme une image de Jésus qui est venu sauver ce qui était perdu. C'est l'Église, même Irénée, donc deuxième siècle, il en parle en ce sens, Cyprien, enfin beaucoup, beaucoup de pères d'Église, Augustin, etc. Et je pourrais montrer pourquoi il disait cela, mais en particulier parce qu'il est dit « ému de compassion, pris aux entrailles », et cette expression n'est employée que dans les évangiles par rapport à Jésus. Il n'y a que de Jésus qu'il est dit qu'il est pris aux entrailles, jamais d'un autre homme, ou bien dans cette histoire, ou bien dans la parabole du fils prodigue, le père ému de compassion. Il y a aussi le fait qu'il va revenir. Il y a plusieurs petits indices. Quoi qu'il en soit, ce que je trouve intéressant dans cette interprétation, c'est que, donc je vais relire ce que j'ai écrit, le Samaritain porte en lui les traits du visage de Dieu miséricordieux manifesté en Jésus. Dieu est ému de compassion qui en Jésus s'approche de chacun de nous, se penche sur nous et nous apporte la guérison. Par Jésus, nous croyons que Dieu voit la misère de l'homme, qu'il ne s'en détourne pas, qu'il ne garde pas ses distances face à elle. C'est un peu comme dans l'Exode, vous savez, quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et ce que je trouve intéressant aussi dans cette interprétation christologique, c'est qu'elle nous garde de faire de la foi une morale, de choses qu'il faut faire. Mais le christianisme n'est pas une morale, c'est une rencontre. Bien sûr, il comporte une éthique, une morale dans un sens, et qui est exigeante, aimer ses ennemis, etc. Mais ces exigences ne peuvent être vécues que si nous sommes attachés à Christ. Et dans ce sens, comme Paul écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'est parce que Christ vit en nous que nous pouvons, par son esprit, entrer dans l'expérience de la miséricorde, miséricorde reçue, et miséricorde offerte. Voilà, je vous remercie. J'arrête ici. Pour l'arrêter, par contre, je...